Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine Rencontre, préparé par André Bourguet. Nous revenons après une petite interruption aux rencontres avec le psychothérapeute Samuel Cohen-Salmon sur le thème des mythes et des rêves. Septième étude de la série si je n'ai pas perdu le compte. Samuel Cohen-Salmon commence par nous expliquer pourquoi il est Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine Rencontre, préparé par André Bourguet. Nous revenons après une petite interruption aux rencontres avec le psychothérapeute Samuel Cohen-Salmon sur le thème des mythes et des rêves. Septième étude de la série si je n'ai pas perdu le compte. Samuel Cohen-Salmon commence par nous expliquer pourquoi il est en studio et non pas en public. Et il en vient au mythe de Narcisse. À lui la parole.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle conférence consacrée à l'analyse des rêves autour du thème mythes et images de nos rêves. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences mensuelles publiques au sein des Maisons pour tous Georges Sand et Albertine Sarrazin à Montpellier, avec la participation de Radio FM+, associée à ce projet. Malheureusement, des problèmes techniques nous ont empêchés d'enregistrer en direct cette conférence dans de bonnes conditions. Cette émission est donc enregistrée en studio, il n'y aura donc pas d'échange avec un public. Pour rappel, ce cycle de conférences originales, mythes et images de nos rêves, a pour but de mettre en évidence les liens existants entre les grands mythes fondateurs et nos rêves. Lors de nos précédentes rencontres, nous nous sommes intéressés notamment aux âges de l'humanité, puis nous avons découvert ou redécouvert les mythes d'Œdipe, de Perséphone, le labyrinthe, Psyché et dernièrement Pandore. Lors de chaque rencontre, nous avons tenté d'analyser ces différents récits mythologiques et de rendre compte de la manière dont les processus psychiques qu'ils décrivent apparaissent à travers nos rêves. Je vous invite à écouter ces précédentes conférences qui sont désormais disponibles librement sur le site de Radio FM+. Aujourd'hui, nous allons porter notre regard sur Narcisse, avec pour principale source le récit qu'en a donné Ovide dans ses Métamorphoses. Voici le mythe. Narcisse, né de l'union contrainte de la nymphe Lyriopée et du fleuve Sésiphe, de l'origine divine de ses parents, il tire un grand bénéfice. Il est d'une beauté sans égale sur terre et sur l'Olympe. Mais un tel don de la destinée n'est pas sans contrepartie. Narcisse est mortel, ce qui inquiète grandement sa mère. Elle interroge alors le divin, le devin Tirésias, que l'on retrouve une nouvelle fois, toujours aussi sibyllin. Il prédit qu'il atteindra la vieillesse s'il ne se connaît pas. L'histoire de Narcisse est également intimement liée à la destinée d'Écho. Écho est une nymphe réputée depuis fort longtemps pour être particulièrement bavarde. Cette qualité, certains diront que c'est un défaut, lui servait notamment à retenir Héra pour permettre à ses sœurs les nymphes de batifoler tranquillement avec Zeus. Pour avoir facilité les infidélités de son mari, Héra punit Écho en la condamnant à ne jamais pouvoir entamer une conversation et la réduisant à ne pouvoir répéter que les derniers mots d'une phrase entendue. Bien des années plus tard, en pleine fleur de l'âge, le beau Narcisse a acquis la réputation de rester indifférent à l'amour qu'il inspire tant aux filles qu'aux garçons. Il se montre particulièrement arrogant envers tous ses prétendants et mène déjà une existence plutôt solitaire. Un beau jour, alors que Narcisse chasse seul, Écho l'aperçoit et brûle immédiatement d'amour pour lui. Ne pouvant s'avancer pour lui parler, elle décide de le suivre, cachée dans les fourrés, jusqu'à ce qu'une occasion plus propice à leur rencontre se présente. Après plusieurs jours, Narcisse finit par entendre un bruit étrange près de lui et s'exclame « Y a quelqu'un ?» Écho saisit sa chance et répond « Quelqu'un !» Après un court échange, Narcisse lance « Rejoignons-nous !» Enchanté par cette invitation, Écho surgit des broussailles et se jette au cou de son bien-aimé. Mais Narcisse s'enfuit en hurlant « Enlève tes mains qui me serrent, je mourrai avant que tu ne disposes de moi !» Ainsi éconduite et humiliée, Écho se réfugie dans les profondeurs de la forêt pour trouver refuge au fond d'une grotte sombre. Là, elle se laisse dépérir. Mais comme toute nymphe, elle est immortelle, si bien qu'au final, il ne reste qu'une voix. Elle n'est plus qu'un son. Écho. Écho, poussé par son amour, continue malgré sa peine à suivre Narcisse, invisible et silencieuse. Narcisse, quant à lui, continue d'éconduire avec autant de méchanceté prétendantes et prétendants, mortels ou divins. Si bien qu'un jour, un jeune homme humilié lance vers l'Olympe cette supplique. Puisse-t-il tomber amoureux lui-même et ne pas posséder l'être aimé ? Supplique à laquelle Némésis, la déesse de la vengeance, accepte de répondre. Et la justice divine est implacable. Alors que Narcisse se retrouve perdu durant une partie de chasse, il découvre une clairière jamais visitée. Au centre se trouve une petite mare à l'eau cristalline où il décide de s'abreuver. En s'allongeant au bord de l'eau pour se désaltérer, il est immédiatement saisi par l'image de la beauté qu'il perçoit dans l'eau et ne peut plus détacher son regard d'un si beau visage. Voici le récit de cette rencontre telle qu'elle nous est contée par Ovide. Ô forêt, est-il un être qui ait vécu un amour plus cruel ? Vous le savez, vous qui avez si bien caché tant d'amants. Vous souvenez-vous, puisque vous vivez depuis tant de siècles, que durant cette longue période, quelqu'un se soit ainsi consumé ? Il me plaît et je le vois. Mais ce que je vois et qui me plaît, je ne puis l'atteindre pourtant. Si grand est l'égarement d'un amant. Et raison de plus à ma douleur, il n'y a pour nous séparer ni vaste mer, ni route, ni mont, ni muraille aux portes closes. Un peu d'eau nous fait obstacle. Lui aussi souhaite mon étreinte, car chaque fois que j'ai tendu mes lèvres vers les eaux limpides, chaque fois il se tend vers moi, le visage tourné vers le haut. Je crois pouvoir le toucher. Un très mince filet d'eau sépare les amants. Qui que tu sois, viens ici. Pourquoi me décevoir, enfant sans pareil ? Où t'en vas-tu quand je t'appelle ? Certes, ce ne sont ni ma beauté ni mon âge que tu fuis, moi que même des nymphes ont aimé. Ton aimable visage me promet je ne sais quel espoir. Et lorsque je tends les bras vers toi, spontanément tu tends les tiens. À mes sourires, tu souris en retour. Souvent même, j'ai vu tes larmes quand je pleurais. D'un geste de la tête, tu réponds à mes signes. Et pour autant que je le devine, au mouvement de tes jolies lèvres, tu renvoies des mots qui ne parviennent pas à mes oreilles. Cet être, c'est moi. J'ai compris. Et mon image ne me trompe pas. Je me consume d'amour pour moi. Je provoque la flamme que je porte. Que faire ? Me laisser implorer ou implorer ? Que demander du reste ? L'objet de mon désir est en moi. Ma richesse est aussi mon manque. Ah ! Que ne puis-je me séparer de mon corps ? Vœu inattendu de la part d'un amant. Je voudrais que s'éloigne l'être que j'aime. Déjà la douleur m'ôte mes forces. Le temps qui me reste à vivre n'est pas long, et je m'éteins dans la fleur de l'âge. Du reste, la mort ne m'est pas pénible. Dans la mort, je cesserai de souffrir. Cet être que j'aime, je voudrais qu'il ait vécu plus longtemps. Maintenant, unis à deux par le cœur, nous mourrons d'un seul souffle. Quand il comprend enfin qu'il s'aime lui-même, atteint d'une folie inguérissable, Narcisse dépérit peu à peu, pleuré par Écho qui n'avait cessé de le suivre, mais qui désormais sans corps ne pouvait lui venir en aide. Une fois dans l'Hadès, le royaume des morts, Narcisse continue à contempler dans les eaux sombres du Styx les traits tant aimés. Sur Terre, les naïades et les dryades, sœurs de Narcisse, venues chercher son corps pour la cérémonie funéraire, trouvent, en guise de cadavre, une fleur au cœur couleur de safran, entourée de pétales blancs et la tête penchée vers l'eau. Ainsi nous est parvenue la tragique destinée de Narcisse. Que vient-elle nous apprendre et que met-elle en jeu? Nous allons le découvrir par la suite. Le mythe de Narcisse nous permet bien évidemment d'introduire la notion de narcissisme. Pour cela, il nous faut également aborder ce que c'est que le moi et comment cette instance psychique se forme. Pour cela, partons du constat que les petits d'hommes naissent prématurés. Si l'immaturité physique est évidente, caractérisée notamment par son impossibilité à se déplacer et se nourrir seul, l'immaturité psychique l'est tout autant. Pendant 9 mois, à flotter seul dans un milieu clos et liquide, le nouveau-né entre de gré ou de force, au moment de la naissance, dans un nouveau monde radicalement différent. Or, le nouveau-né reste conditionné par la nature de l'environnement dans lequel il s'est développé. Ainsi, il se considère toujours seul et se répand dans l'espace tel un liquide. Nous devons beaucoup à la psychanalyse britannique qui a théorisé cette conception originale de l'environnement par le nouveau-né. Ce moment inaugural du développement psychique de l'enfant est appelé position psychoïde, caractérisée entre autres par l'absence de la notion de corps propre. La prise de conscience d'un corps propre s'acquiert progressivement sous l'effet combiné d'actions physiques et d'actions psychiques. Les actions physiques sont assez faciles à saisir. Elles correspondent à l'ensemble des effets de l'environnement, matériel et surtout humain, qui vient border le corps du bébé. Ainsi, la manière dont l'enfant est porté, caressé, manipulé, entouré, participe grandement à la prise de conscience qu'il y a un corps propre. Cependant, ces actions physiques, bien qu'indispensables, ne sont pas suffisantes à la prise de conscience de ce corps propre, préalable indispensable à partir duquel va se développer la notion de moi. Il faut aussi des actions psychiques. Dans ce cas, la manière dont l'enfant est regardé, mais surtout la manière dont l'enfant est parlé, prennent une très grande importance. Le regard et la parole sont considérés comme des actes psychiques, car ils ne rendent pas compte de la manière dont l'enfant est perçu réellement, mais plutôt comment l'enfant est image innée, par celui ou celle qui le regarde et le parle. Ainsi, la manière dont le nouveau-né est regardé et parlé rend compte de l'image que l'autre a de lui, Ainsi, le moi va commencer à se développer grâce à cet effet miroir. Et c'est notamment parce que le regard de l'autre est fondamental dans l'élaboration de notre moi unique qu'il nous poursuit toute notre vie, tel l'œil de Cain. C'est le fruit d'un long travail narcissique pour ne plus être défini selon le regard de l'autre. Bien que la notion de moi commence à poindre chez le jeune enfant, on ne renonce pas à notre position schizoïde de départ si facilement. Le développement du moi se fait par étapes. Le moi se structure dans un premier temps autour d'une instance primordiale appelée moi idéal, qui, pour faire simple, correspond au sentiment de toute puissance qui nous habite. On le retrouve de manière très importante chez les enfants, tous plus ou moins persuadés de posséder des pouvoirs magiques. En grandissant, cette croyance s'estompe, voire même semble disparaître à l'âge adulte. Sauf dans les rêves.
Radio FM+, réseau associatif régional en Languedoc méditerranéen, émettant sur Montpellier et Nîmes. Le psychothérapeute Samuel Cohen-Salmon vient de nous présenter le personnage mythologique de Narcisse, en fait souvent mal connu, surtout dans sa relation à la notion de « moi ». Il en vient maintenant à l'utilisation de ce mythe dans l'interprétation de rêves. Rêves qui lui ont été racontés au cours de ses consultations professionnelles.
Alors, c'est le cas d'un patient qui vient pour la première fois suite à une rupture amoureuse particulièrement douloureuse. Il a la trentaine, une carrière professionnelle construite, à deux, avec sa compagne, brillante et prometteuse, une position sociale qui s'affirme et le projet de fonder une famille. Et tout s'effondre le jour où sa compagne lui annonce qu'elle le trompe et qu'elle préfère mettre fin à leur relation pour aller avec l'autre. Non seulement le lien affectif est rompu, ce qui suffira en soi à comprendre sa détresse, mais en plus, les projets de famille, professionnels et la place sociale s'effondrent en même temps. Parce qu'elle en préfère un autre. Et là, narcissiquement, la coupe est pleine. Le moi est battu, abattu. Et les premières semaines, ce patient passe ses séances à pleurer et à se morfondre autour de cette question existentielle : qu'est-ce que je vais devenir ? Alors voici un rêve du début de son analyse qui rend bien compte de la réalité psychique dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Je suis face à un vaste champ. Au bout du champ, une colline, au sommet de laquelle un point étrangement lumineux attire mon attention. Entre nous, une armée de dizaines de milliers de soldats. Je sors alors mon épée et j'avance tranquillement d'un pas déterminé. La bataille s'engage. C'est un vrai bain de sang. Arrivé au pied de la colline, je me retourne et découvre la plaine recouverte de cadavres. Face à moi, la colline est désormais recouverte de soldats d'élite bien équipés et puissamment armés. J'avance toujours en marchant vers le point lumineux. Le combat commence, et finalement, le rêveur en sort une nouvelle fois vainqueur, mais n'arrive pas à atteindre le point lumineux vers lequel il se dirigeait. Et le rêve s'arrête là. Alors, en quoi ce rêve vient mettre en scène la notion de moi idéal? On est là face à un rêve typique de compensation. Car face à une période narcissiquement très compliquée, où sa compagne le quitte, et le quitte parce qu'elle en préfère un autre, et où tout ce qu'il avait, tous les projets qu'il avait commencé à mettre en place et qui se développaient s'effondrent suite à ça, on se retrouve justement avec un rêve où il fait face à une adversité incroyable. Il y a ce point lumineux au sommet de la colline qui va représenter son idéal, ce qu'il cherche à atteindre, et entre lui et cet idéal, l'ensemble des éléments du quotidien, psychique et réel, qui viennent s'y opposer. Alors, on peut y voir, bien entendu, à travers le point lumineux, la compagne, dont il est toujours amoureux, avec qui il a toujours ses projets de vie, et à travers l'ensemble des soldats, le rival, qu'il essaye de dépasser, de dominer, de battre, pour atteindre ce point lumineux. Dans la réalité, il a perdu. Il est vaincu et effectivement, il n'arrivera jamais à atteindre à nouveau sa compagne. Mais dans son rêve, s'il n'arrive jamais à atteindre ce point lumineux vers lequel il tend, il arrive quand même à vaincre les soldats, à vaincre l'opposition, à vaincre la rivalité. C'est en ça que c'est un rêve de compensation. C'est-à-dire que là où il est mis en échec narcissiquement, il vient dans son rêve justement renforcer cette position narcissique déchue. Et ça, c'est grâce à ce que l'on appelle justement le moi idéal, qui donne ce sentiment de toute puissance qui apparaît bien à travers le rêve. Il est seul face à une armée de soldats, des milliers, des dizaines de milliers de soldats, et il traverse la plaine sans une égratignure. Donc là, on voit bien le sentiment de toute puissance. Mais il ne rend pas compte d'une toute puissance réelle, il rend compte surtout d'un sentiment de toute puissance psychique qui, lui, vient justement supporter narcissiquement le sujet. Et c'est ça qui, pendant plusieurs mois, va le permettre de tenir, avant de pouvoir finalement abandonner cette position imaginaire qui ne tient pas. Mais au départ, il en avait besoin parce que c'est cette position qui le faisait tenir face à une adversité qui aurait pu le voir s'effondrer complètement. Et s'il a pu tenir, c'est aussi grâce à ce moi idéal, c'est-à-dire ce noyau fondamental sur lequel s'est structuré le moi. Par la suite, et on va avancer, le moi continue à se structurer autour de ce noyau primordial par identification avec son environnement. D'où l'importance du rôle des parents. En effet, avec la reconnaissance des interdits parentaux, et plus généralement, l'acceptation des contraintes de l'environnement qui mettent à mal notre sentiment de toute puissance, une nouvelle instance moïque va émerger et se développer. C'est ce que l'on appelle l'idéal du moi, qui, comme son nom l'indique, représente l'image idéale du moi à laquelle on désire s'identifier. Au cours de notre vie, on va par la suite s'identifier et investir des objets censés nous permettre d'atteindre cet idéal. L'idéal du moi s'exprime également dans nos rêves, qui nous permettent de suivre les processus psychiques d'investissement narcissique. Alors là, je vous propose un exemple de rêve d'un patient en début d'analyse qui arrive avec ce premier rêve. Donc c'est lors d'une soirée où il est invité dans une grande demeure et la soirée se passe autour d'un bassin, d'une piscine, mais personne ne se baigne. Mais tout le monde fait la fête, il y a une très bonne ambiance. Lui, il est là avec des amis. Et à un moment de cette soirée, un événement se passe, tout le monde s'arrête et se tourne vers la piscine, d'où émerge une déesse. Elle est grande, elle est belle, elle est lumineuse, blonde, habillée tout de blanc, et tout le monde est subjugué par la beauté de cette présence féminine qui vient de surgir des eaux. Et une amie qui accompagnait le rêveur dans le rêve s'exclame « Qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler ?» Après ça, le rêve continue, mais change de décor. Et le rêveur se retrouve parmi un groupe de chevaliers Jedi. Il est lui aussi un chevalier Jedi. Et ils prennent d'assaut un palais sur une île un peu plus loin qui est dominé par une société phallocrate, donc par des hommes, qui sont caractérisés comme étant voleurs, menteurs, pervers, corrompus et violents. Voilà comment les hommes sont représentés. Et donc le but de cette petite troupe de chevaliers Jedi, dont fait partie le rêveur, c'est d'aller éliminer leur leader. Là aussi, on va voir comment les identifications se produisent. Il y a d'abord, bien entendu, des personnages féminins et personnages masculins. Et le rapport à l'identification est assez évident lorsque l'ami du rêveur s'exclame « Qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler ?» en parlant de cette déesse qui vient de sortir des eaux. Alors on voit là, et c'est assez étonnant, le rêve d'un homme qui, par le biais d'un autre personnage dans le rêve, dit à quel point il aimerait s'identifier à cette représentation féminine. Et bien entendu, derrière, on peut y voir une représentation de la mère. Représentation symbolique, mais aussi fantasmatique de la mère, à laquelle il aimerait pouvoir ressembler et s'identifier. En parallèle de ça, dans le même rêve, même si on change de tableau, on retrouve une image de l'homme en parfaite opposition à l'image de la déesse. Société phallocrate, avec des hommes qui ont tous les défauts du monde et qu'il faut venir éliminer. Et lui, il prend sa part. Et là, il prend les habits du chevalier. Comme dans le rêve précédent d'ailleurs. L'image du chevalier chez l'homme est toujours très présente dans notre société. En l'occurrence, un chevalier Jedi. Donc, on y rajoute aussi quelque chose de l'ordre de la magie à travers tout ça. Et on retrouve à la fois la question, les notions de moi idéal et d'idéal du moi. Ici, l'idéal du moi, bien que le rêveur soit un homme, l'idéal du moi, c'est cette représentation féminine de la déesse. C'est ça son idéal, c'est ça ce vers quoi il tend et ce à quoi il veut s'identifier. Et donc, les représentations qu'il investit sont des représentations préférentiellement féminines. Et par-dessus cet idéal du moi, on retrouve aussi le moi idéal à travers la représentation du Jedi, du chevalier, qui va justement aller pouvoir affronter les phallocrates et bien entendu les destituer, les mettre à mal. Même si le rêve ne le dit pas, c'est quand même l'objectif. Donc on se retrouve aussi dans une position œdipienne bien particulière. Elle est pré-castration, ce rêve parle du stade qui est avant la castration mais qui reste œdipien. C'est-à-dire une représentation masculine où on peut y voir le père qui vient justement représenter tout ce que le rêveur ne veut pas. Lui, il veut la mère et il veut s'identifier à la mère. Et donc il va s'opposer de toutes ses forces à cette représentation masculine incarnée par le père. Alors pourquoi de telles identifications? Pourquoi un tel idéal, du moins? Ça, l'analyse doit permettre justement de le découvrir. Et ce faisant, ça doit pouvoir lui permettre de comprendre pourquoi, en tant qu'adulte, il investit telle représentation et il s'identifie à telle ou telle personne, notamment socialement, mais aussi dans ses histoires d'amour, dans le couple. Mais ça, bien entendu, cela relève plutôt de son intimité, et j'en rendrai pas compte ici. Donc, pour conclure, sur le thème de Narcisse, je tenais à mettre l'accent sur des réflexions que j'entends parfois, encore, peut-être un peu trop souvent, selon lesquelles un travail sur soi, une psychothérapie d'orientation analytique, serait une activité intellectuelle, purement narcissique, pour ne pas dire, comme on l'entend parfois, masturbatoire. Cette vision caricaturale est justement représentée par le personnage de Narcisse, qui finit par se contempler lui-même sans égard pour les autres. Alors si une analyse consiste effectivement à porter un regard sur soi-même, cela ne relève en rien d'une contemplation narcissique. Et d'ailleurs, cela ne relève en rien d'une activité intellectuelle. Une analyse, c'est avant tout et uniquement une activité psychique. Mais pour ce qui concerne la contemplation narcissique, il faut quand même rappeler que les rêves ne sont pas un miroir d'eau renvoyant une image parfaite de nous-mêmes. Si les rêves disent bien la vérité du sujet, il faut toujours garder à l'esprit que cette vérité, elle est voilée. Elle est voilée par les symboles, par le symbolisme. Et donc, les rêves renvoient toujours une image déformée de nous-mêmes, parfois caricaturale, qu'elle soit angélique ou grotesque. Et ça, c'est l'une des conséquences des mécanismes de défense afin d'éviter toute identification immédiate au contenu du rêve, qui permettent de mettre le rêve à distance si on en a besoin. Ça, c'est un mécanisme de défense puissant. Mais on en a parlé déjà, on a évoqué et vu à plusieurs reprises dans différentes émissions, et donc je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. La différence que je souhaite mettre en avant tient avant tout dans la place de l'autre. Dans le cas de Narcisse, il est seul. Certes, il est en permanence suivi par Echo, mais celle-ci est invisible et ne peut jamais engager la conversation. Tout juste peut-elle répéter les fins de phrase. Personne ne vient détacher Narcisse de son image. Il n'y a aucun tiers physique, mais surtout aucun tiers de la parole. Et nous savons à quel point c'est important dans la structuration du moi, on vient de le voir. Il faut un tiers de la parole qui viennent l'extraire de cette position. Mais il n'y en a pas. Il est seul avec lui-même, car l'autre est absent. Echo existe bel et bien, mais sa présence est fantomatique. Et c'est justement la position inverse que doit prendre l'analyste. C'est-à-dire que sa présence doit se faire sentir tout particulièrement dans la parole. Cela ne veut pas dire pour autant que l'analyste doit parler en permanence. Non, bien entendu. La parole revient avant tout au rêveur ou à la rêveuse. Cependant, l'analyste ne doit pas rester muet. Il doit être capable de faire entrevoir à la personne en analyse une facette d'elle-même qu'elle n'a pas vue ou qu'elle n'a pas voulu voir, de façon à l'aider à s'extraire de l'image fantasmatique que le sujet a de lui-même. Voilà. Nous poursuivons ce cycle de conférences sur le thème mythe et image de nos rêves avec le personnage d'Héraclès.
sur FM Plus Studio de Montpellier, le psychothérapeute Samuel Cohen-Salmon vient de poursuivre sa série sur mythes et rêves avec Narcisse et Écho. Mais on retient plutôt Narcisse qui oriente l'interprétation de rêves exposés dans le sillage du récit mythologique. Nous retrouverons encore une ou deux fois Samuel Cohen-Salmon. Au revoir et à bientôt sur FM+, pour une prochaine rencontre.